l'écologie intégrale au cœur du Pays Basque. Une émission proposée et réalisée par Jeanne Busson.
Bonjour à tous, aujourd'hui lancement d'une nouvelle émission hebdomadaire sur le thème de l'écologie intégrale, intitulée Laudato si, écologie intégrale au cœur du Pays Basque. Ce titre fait bien sûr référence à l'encyclique écologique sur la sauvegarde de la maison commune, écrite il y a 5 ans par le pape François. Tout au long de ces émissions, nous essaierons de comprendre la portée de cette encyclique, la rendre accessible à tous, comment faire le lien entre la conversion écologique et les pratiques concrètes de terrain. Alors, comme le disait le pape dans son encyclique, je cite, « Il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Tout est lié car la terre est malade et les pauvres sont les premiers à en souffrir. » Voilà, ce sera notre fil rouge pour découvrir le patrimoine naturel exceptionnel du Pays Basque, aux multiples paysages mais aussi appréhender les enjeux socio-environnementaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il m'a semblé important de remonter dans le temps. Donc la crise écologique a pris une ampleur inquiétante. Cette encyclique s'inscrit dans un contexte d'urgence. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec l'abbé Michel Gara, curé de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul à Bayonne depuis 8 ans. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour chers auditeurs.
Pour bien comprendre le contexte de la publication de l'encyclique, revenons un peu en arrière. Comment l'Église s'est positionnée par rapport à cette thématique écologique dans le passé?
Laudato si a été une très bonne surprise. On s'y attendait un petit peu parce qu'il y avait la COP21 qui se préparait à Paris. Et on a eu l'impression que l'Église découvrait tout d'un coup l'écologie. En fait, des papes s'étaient exprimés. Et des mouvements écuméniques avaient réalisé pas mal de choses auparavant. Alors, sans remonter trop loin, mais quand même, le pape Jean XXIII, on se souvient que le pape Jean XXIII est celui qui a ouvert le concile Vatican II, qui a ouvert l'Église à beaucoup de nouvelles réalités, notamment aux questions nouvelles que pose le monde, et sans doute que l'écologie, même si le mot n'était pas utilisé, était une réalité qui lui tenait déjà à cœur. Voici ce qu'il disait en particulier le 28 août 1961. De nos jours, dans ce qu'on pourrait appeler l'âge technique de l'humanité, les possibilités d'utilisation de l'énergie s'agrandissent singulièrement, non seulement de l'énergie de type classique, mais de celle aussi qui provient de sources peu ou pas encore utilisées jusqu'ici, comme le soleil ou le vent, ou encore les eaux, les vapeurs cachées dans les entrailles de la Terre, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie géothermique. 1961, je doute fort qu'on ait été réceptif à ce premier message lancé par l'Église au plus haut niveau, c'est Jean XXIII. Il a été suivi par Paul VI, son successeur, lequel déclarait le 16 novembre 1970, en parlant clairement de la crise écologique, vous voyez que le mot va faire son apparition, dans un discours qu'il a prononcé à la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation. Il a fallu des millénaires à l'homme pour apprendre à dominer la nature. L'heure est maintenant venue pour lui de dominer sa domination. C'est un jeu de mots, mais qui en dit long, parce qu'on a souvent accusé la Bible et puis l'Église de promouvoir l'excellence de l'homme et la suprématie de l'homme sur tout le vivant. Et ça résonne beaucoup quelques 40 ans après, ou 50 ans après ce discours à la FAO. Puisque nous voyons ce que veut dire la domination de l'homme sur toutes les forces de la nature, les énergies, etc. Le pape déjà mettait une limite, il n'emploie pas le mot de limite, mais ça sera un mot qui sera repris et qui est aujourd'hui très actuel. Non seulement notre planète et les ressources sont limitées, mais l'homme doit travailler à sa propre limitation, c'est-à-dire dominer sa domination.
Donc, comme vous l'avez dit, les papes Jean XXIII et Paul VI donc, étaient déjà sensibles à cette thématique. Mais à partir de quand donc, le concept d'écologie intégrale, où la protection des pauvres et la protection de la nature ne font qu'un?
Au même moment, il y a le Conseil œcuménique des Églises qui déjà agitait cette double chose que vous avez signalée en introduction et qui seront caractéristiques de Laudato Si. Le Conseil œcuménique dit ceci et l'invite à agir pour la planète et pour la justice sociale. Et voyez comment les deux sont liés. Vous avez bien répété ce qui maintenant devient classique, tout est lié, hein, le social et puis le développement harmonieux de la planète. Du vivant en général. Quoi. Et puis dans les années 80, les mêmes églises œcuméniques ont développé un programme autour de la justice, de la paix et de la sauvegarde de la création. Vous voyez, justice, paix, sauvegarde de la création. Ça a été un moment, je crois, très important en 1989. Exactement, ça s'est déroulé à Bâle, ce congrès qui a agiter la réflexion, hein. Donc où on faisait passer l'écologie d'un gentil mouvement plutôt vert, plutôt marginal, issu peut-être de mai 68, pour le porter au cœur de la réflexion et de la spiritualité chrétienne, des églises chrétiennes. En France, au même moment, il y a eu un collectif chrétien qui s'appelait Vivre Autrement, et puis pour passer les années en 2012, Chrétiens Unis pour la Terre. Alors c'est ce mouvement qui sera à l'origine de manière de recevoir Laudato Si, qui ont peut-être aidé à cette réflexion aussi, avec des personnes comme Elena Lacida, mais enfin bien d'autres aussi, bon, qui mettront ensuite en œuvre Laudato Si dans notre pays, dans notre Église catholique en France. En 2014, il y a eu cette idée promue par François, le pape François, qui était d'instaurer un jeûne pour le climat. Et autant qu'il m'en souvienne, il avait souhaité que chaque premier jour du mois, eh bien, on puisse jeûner pour le climat. Ça n'a pas été pleinement entendu. Et puis, il y a eu la mobilisation pour la COP21, et nous arrivons effectivement à ce texte majeur qui appartient à la réflexion de l'Église tout entière, et en particulier à la réflexion sur la doctrine sociale de l'Église, inaugurée par Léon XIII en 1890, mais qui se poursuit aujourd'hui, en s'augmentant de cette réflexion sur le vivant, sur la sauvegarde de la création, sur le développement harmonieux au sein de la planète. Bon, c'est donc Laudato Si. En 6 chapitres, le pape a fait le tour non seulement des dysfonctionnements de la planète, mais également de trésors spirituels pour proposer des chemins nouveaux, comment vivre de façon plus harmonieuse en tant que vivant au milieu des autres vivants.
Quelle est la clé de lecture, du coup, de cette encyclique ?
Alors, la clé de lecture, elle n'est jamais unique, bien sûr. Comment cette encyclique est venue ? Bien, nous avons entendu comment ses prédécesseurs et la réflexion des églises œcuméniques ont balayé le terrain déjà. Il y a une motivation immédiate, c'est la COP21, on vient d'en parler, mais il y a aussi une motivation spirituelle qui est au long terme. Le prénom François donc rappelle François d'Assise, et donc il était important que François intervienne dans le cadre de la doctrine sociale de l'Église, qui conjoint non seulement le social, mais également le développement harmonieux du vivant dans notre planète. Alors bien dans cette encyclique, qui comporte 6 chapitres qu'on ne va pas détailler, mais déjà il y a un mot qui repris maintenant partout, tout le vivant habite une maison commune. Et le vivant, c'est pas simplement l'humanité ou les humains, mais c'est le vivant, qu'il soit animal ou végétal en particulier. Donc notre maison commune va mal, et il constate un certain nombre de choses connues par ailleurs. Lui, il mettra le doigt sur les écarts sociaux qui sont considérables aujourd'hui et qui accroissent non seulement, comment dire ça, les disparités sociales, mais qui creusent aussi l'écart entre ceux qui valorisent la planète et ceux qui l'exploitent ou ceux qui la pillent. On se souvient de Paul VI déjà qui avait donné l'alarme sur les dominants, les dominateurs en particulier. Alors, s'il y avait une chose à retenir, eh bien, on parle des trois termes, des trois pôles qui sont importants. Le tout est lié, ben vous en avez parlé, effectivement, tout est lié. Hein, le vivant est étroitement uni sur notre planète. Mais tout est donné, alors on entre plutôt dans une démarche spirituelle. Nous ne sommes pas à l'origine de notre propre vie. C'est pas nous qui avons créé la planète. Nous recevons comme créés d'un créateur. Et là, le pape développe cette idée que tout est donné. Nous sommes dans le don et non pas dans le profit ou l'exploitation. Et ça, c'est une valeur spirituelle très très importante. Les six chapitres sont entrelacés. Et ainsi, notre François fait honneur ou fait la suite à Vatican II, lequel a invité à porter un regard sur le monde et à l'analyser à la lumière de l'Évangile.
Merci Abbé Michel Gara. Je rappelle, vous êtes curé de la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul à Bayonne. Merci pour cette remise en perspective historique de la publication de cette encyclique écologique publiée il y a 5 ans. Vous avez souligné l'influence des papes Jean XXIII, Paul VI. Nous vous retrouvons dès la semaine prochaine pour découvrir le chapitre 4 de cette encyclique qui porte sur l'écologie intégrale et qui nous accompagnera tout au long de nos émissions. Vous nous expliquerez comment cette encyclique a-t-elle été reçue sur le territoire du Pays Basque et dans votre paroisse. Je vous remercie, à la semaine prochaine, merci beaucoup.
Merci bien, chers auditeurs, à la semaine prochaine.
L'écologie intégrale au cœur du Pays Basque. Une émission proposée et réalisée par Jeanne Busson.